Le dévoilement de Dieu No 48. Le caractère de Christ troisième partie. L'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué No 2. Le quintuple ministère, le modèle pour tous les âges. Le 9 septembre 2018. Brian Kozurek. Pasteur. Les dernières fois que nous avons parlé, nous avons examiné la façon dont Frère Branham a comparé le livre de Josué à l'Épître aux Éphésiens, et a dit que l'Épître aux Éphésiens était comparable au livre de Josué. Nous vous avons montré la façon dont Josué, qui était serviteur de Moïse, que nous appellerions aujourd'hui un quintuple ministre, par son ministère les élus de cette heure-là sont entrés dans la terre promise en suivant la même colonne de feu que Moïse suivit. Dans son sermon Le Dieu qui est riche en miséricorde mardi 19 janvier 65-29 maintenant, beaucoup d'entre vous, si vous aimez noter les passages des Écritures que lit le prédicateur, et j'aimerais que vous, ce soir, si vous le voulez bien, que vous ouvriez dans Éphésiens. 30 dimanches passés, je parlais des Éphésiens, je disais que le livre de Josué, c'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament, et que c'était un livre de rédemption. 31 et la rédemption comprend deux parties distinctes, sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles, mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il n'est ni doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. 32 Josué. C'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament. Là, Moïse représentait la loi, qui Néhémie pouvait sauver personne. Par contre, la grâce le pouvait. Et Josué, là, c'est Esther le même mot que Jésus, Jéhovah Sauveur. 33 Et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens, à une autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et consorts, tous nos programmes d'instruction, et toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain, nous devons donc avoir de nouveau un âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode pour sortir et entrer dans, pour l'enlèvement. Alors, ce matin, je voudrais examiner cela un peu plus profondément que ce que nous avons fait lors du dernier sermon que j'ai prêché avant que frère Webster Néhémie vienne du Malawi. Par conséquent, nous voyons que si le livre de Josué est comparable au livre des Éphésiens, alors examinons le livre des Éphésiens. Dans Éphésiens 1, Paul nous parle de recevoir le Saint-Esprit et de se préparer à l'adoption des fils et à l'héritage des saints. Ensuite, nous voyons au chapitre 2 que Paul parle de notre être étant vivifié par Christ, et le contraste dans notre vie de ce que nous étions à ce qu'il nous a appelés à être en tant que fils. Puis, au chapitre 3, Paul nous raconte sa propre expérience de la façon dont Dieu l'a pris et l'a changé par la révélation et il est devenu ministre de l'Évangile afin que nous puissions avoir la même doxa de Dieu que Dieu lui avait donnée. Puis, alors que nous abordons le chapitre 4, l'apôtre Paul nous apprend que Dieu a placé dans l'Église cinq dons pour complètement équiper l'Église et l'amener à la pleine maturité où nous pourrions croître jusqu'à l'image même de Christ lui-même, étant rempli de la plénitude de son caractère. Par conséquent, nous voyons au chapitre 4.11 et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Remarquez que l'apôtre Paul a utilisé l'expression les uns les autres en faisant allusion au quintuple ministère et nous savons que l'expression les uns les autres parle de plus d'une personne. Mais il y a une hérésie qui se répand rapidement dans le milieu de ce message par lequel certains groupes traitent aujourd'hui ceux qui sont identifiés à la description d'Éphésiens 4 de Paul comme étant apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants. Ces groupes persécutent les véritables quintuples ministres et les traînent de Dathan et de Corée parce qu'ils sont fidèles à leur appel divin et continuent à prêcher la parole et à faire des signes et des miracles que Dieu a dit qu'ils feront. Maintenant, vous direz, qui fait cela? Ouvrez simplement vos oreilles, mes frères et sœurs. Un groupe dit que si vous croyez Jean 14.12, vous êtes un Dathan et un Corée qui s'opposèrent aux prophètes. Et d'autres disent que si vous prétendez que la perfection des saints passera par un autre ministère que celui de William Branham, vous êtes un Dathan ou un Corée. Eh bien, croyez-le ou pas, mais les deux enseignent la même doctrine et font de William Branham ce qu'ils n'estèrent pas. Le problème, tel que je le perçois, estère que beaucoup de personnes n'étudient pas le message et n'aiment le ramènent pas à la Bible. Ils disent citer frère Branham quand ils disent que vous n'êtes pas obligé de comprendre le message. Il vous suffit de le croire. Mais souvenez-vous, on a reçu l'ordre de dire tout ce qui est serre sur les bandes et est faire. Branham a dit dans son sermon que la semence n'hérita pas avec la balle jeu 29 avril 65 des 50. Or, prenez Saint Jean 5.24 et écoutez ceci. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. 51 Maintenant, comme c'est-à-dire différent de la plupart de nos théologies, eh bien, je peux sortir là et dire à un ivrogne, croyez-vous? Bien sûr. À un homme qui vit avec la femme d'un autre, croyez-vous? Bien sûr. Étiez-vous hier soir à la réunion pour écouter la parole? Bien. Sûr. La croyez-vous? Bien sûr. 52 C'est juste une déclaration qu'il fait. Mais l'interprétation originale de cette parole. C'est celui qui comprend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Celui qui comprend. C'est à dire celui à qui elle est révélée. Jésus a dit, nul Néhémie peut venir à moi si le père Néhémie l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donné viendront. Mes brebis, mes colombes, entendent ma voix. Elles ne m'y suivront point un étranger. 53 Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est-ce la parole de Dieu? Qu'est-ce que la voix d'un homme si ce n'est sa parole? Il s'agit de la parole de Dieu. Elles entendront la parole de Dieu. Maintenant, disons tout ce qui est serre sur les bandes. Vous Néhémie pouvez pas y croire si vous Néhémie comprenez pas ce qu'est la chose que vous croyez. Vous pouvez dire, frère Branham, je crois tout ce que vous dites et s'estère bien. Mais frère Branham lui-même a dit, cela signifie simplement que vous savez lire. Maintenant, ces choses qu'on enseigne sont en fait des hérésies et beaucoup de personnes tombent dans ces hérésies en cette heure. En plaçant toutes les œuvres du Saint-Esprit du quintuple ministère dans un seul homme, même au point où certains disent que personne n'est appelé à faire les œuvres de Christ, à l'exception de cette personne, et personne n'est appelé à prêcher la parole à l'exception de cette personne. Et ces deux groupes persécutent le véritable quintuple ministère qui a été oint du même Saint-Esprit de Dieu qui les a appelés à prêcher, à évangéliser et à apporter la doctrine au monde. Et ces groupes, qui soutiennent que personne n'est appelé à le faire à l'exception de William Branham, traitent ceux qui prêchent de Dathan et Corée et vilipendant le véritable quintuple ministère de Dieu de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Mais frère Branham a dit le contraire de ce qu'ils enseignent. Lorsqu'on lui a demandé s'il était le seul qui devrait prêcher, il dit dans question et réponse numéro 3 d'Hymne 30 août 64 et Hymne 349 maintenant. Frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous Néhémie devrait prêcher? Nous avons vu votre nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous Néhémie croyons pas que vous le feriez s'il Néhémie devait pas prêcher. 203 Miséricorde. Frère. Sœur. Qui que ce soit qui vous a raconté que personne Néhémie doit prêcher sauf moi. je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non. Tout homme ou qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher, nous avons besoin de lui. 204 Il y a partout dans le monde des hommes de Dieu qui sont oints pour prêcher l'Évangile. Voyez-vous? Je suis simplement un petit galet sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez-vous? Ainsi, il y en a beaucoup qui sont plus appréciables, plus dignes, plus aptes en toutes choses que moi pour prêcher. Je suis simplement une humble petite personne placée ici. Je suis un grain de blé dans tout un grenier. Voyez-vous? Ainsi, c'est simplement un. Vous comprenez ce que je veux dire. 205 Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'Évangile. Question et réponse numéro 3 Dîme 30 août 64 et 331. 122 Enseignez-vous que l'épouse Néhémie doit aller à aucune autre église à moins que ce soit vous qui y prêchiez ou plutôt, en d'autres termes, au tabernacle? Non, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je n'y crois pas cela. Je n'y crois pas. Nous avons ici des ministres qui sont éparpillés partout dans le pays, et je crois qu'ils font partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut fréquenter n'importe quelle église qu'il veut et qui enseigne la parole. Et je crois que, s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous n'y pouvez aller à aucune autre église où l'on enseigne toute la parole, allez là où l'on enseigne la parole à moitié. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver un endroit où l'on enseigne toute la parole. Peu importe ce que vous faites, allez à l'église. Faites-le. Exposé des 7 âges de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Page 74. 74-2. Façon d'apporter la parole à Esther, le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Et c'est Esther d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait 3 qualités que voici, exposées des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Smyrne. Page 156-156-2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de n'y dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils n'y disent que ce qu'il avait dit. I Corinthiens 14.37 Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent par-ci, ou ils retranchent par-là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur, et le réveil s'éteint. Comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Car l'Esprit n'a qu'une seule voix. Qui est la voix de Dieu. Paul, de même que Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que même lui, Paul, Néhémie pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh! Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Se revêtir de toutes les armes de Dieu dîme 1er juillet 62-120 dans Jean 14.12. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Qu'est-ce? C'est-ce Dieu dans l'Église, dans ses 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée, avec le Saint-Esprit lui-même là-dedans, lequel est la parole rendue manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il vit. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul nous dit que Dieu a placé dans l'Église cinq dons pour perfectionner les saints? Si cette perfection doit passer par un seul homme, pourquoi Dieu placerait-il dans l'Église ses cinq offices? Remarquez au verset 12. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, or, ce perfectionnement n'est-il pas ce que cherchent ces hommes? Ce perfectionnement, ce n'est-il pas ce que fait le sang? Cette perfection est-il un nettoyage et un éclaircissement? Et cela n'est-il accompli qu'à travers le sang de Jésus-Christ? Question et réponse numéro 3, dîme 30 août 64 et 355 concernant l'écriture d'Éphésiens 4, 11-13. Est-ce ce que nous tous voyons voir? Allons-nous recevoir tout le perfectionnement des saints par les bandes, ou devrions-nous être ici où les dons de l'Esprit opèrent ainsi que les différents ministères de l'Église? Pour nous aider à atteindre la perfection, nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. 219 non. Ils désirent venir ici à l'Église pour le perfectionnement. Voyez-vous, ici à l'Église, que nous ayons communion les uns avec les autres, mais le perfectionnement vient par la communion entre Dieu et nous. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Mais ce perfectionnement ici vient d'un mot grec qui signifie achever ou équiper. Puis ils doivent aussi accomplir l'œuvre du ministère. Alors, c'est le ministère de qui dont ils accomplissent l'œuvre? Le ministère du corps de Christ. Les œuvres du Christ? Et à quoi ça sert? À l'édification, cela signifie l'érection du corps du Christ. Et il dit que cela doit se poursuivre, sourire. 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Maintenant, voici où je vois le problème avec ceux qui critiquent le véritable quintuple ministère. Ils ne comprennent pas ce qu'est-ce cette unité de la foi. Mais nous savons que comme il n'existe qu'une seule foi et que cette seule foi est la foi ou la révélation du seul Seigneur, alors le but du quintuple don de Dieu à l'Église est de nous amener à l'unité de la révélation de Jésus-Christ. Et cela, Néhémie, peut se faire que si les gens ont non seulement la révélation de Jésus-Christ, à savoir qu'il y a un seul Dieu et qu'il a eu un Fils, mais comme Paul le dit aussi, et la connaissance du Fils de Dieu, mais beaucoup de ceux qui prétendent suivre le ministère de frère Branham et ont tout placé dans ce seul vase, Néhémie connaissent pas leur Bible et Néhémie savent même pas s'il y a un Fils de Dieu. Ils croient en un Dieu qui est le Fils, mais Néhémie croit pas qu'il y a un Fils dont le Père est Dieu. Ainsi, il dit que Dieu enverra ce quintuple don à l'Église afin d'établir dans l'Église non seulement la révélation de Jésus-Christ, mais aussi d'apporter la connaissance du Fils de Dieu, et par cette combinaison de la révélation de Jésus-Christ et de la connaissance du Fils de Dieu, d'amener tous les fils à avoir la même relation avec le Père que le Fils âgé n'avait avec le Père. Et comme a dit l'apôtre Paul, c'est d'amener l'Église à l'état d'homme fait. Qui est un homme teleio? Et le mot signifie un fils pleinement adulte et mature prêt pour adoption. Le mot teleio signifie la pleine croissance mentale et morale, l'état d'être complet. Et ce mot n'est utilisé dans la Bible que lorsqu'il se réfère à ses fils qui ont pleinement mûri en adulte et sont prêts pour l'adoption. Maintenant, c'est la raison d'être du quintuple ministère. Et la Bible nous dit que Dieu l'a placé dans l'Église pour produire cette maturité par la prédication de la parole et l'accomplissement des œuvres de Christ. La stature d'un homme parfait dîme 14 octobre 62 M299, car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, tous, pour le perfectionnement, et l'introduction en elle de toutes ses vertus, pour arriver à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. Maintenant, certains enseignent qu'ils n'ont pas besoin d'un quintuple ministère, parce que William Branham était tous les cinq. Mais frère Branham a dit qu'il n'était pas un évangéliste, car même si Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, il n'était pas un évangéliste pour autant. Se ranger du code de Jésus 21 juin 62-64. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans de petites choses spéciales pour servir, peut-être, à poser un fondement pour le prophète qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je le fais. Maintenant, vous savez cela. Un prophète n'est-ce pas un évangéliste? Et un évangéliste n'est-ce pas un prophète? Un pasteur n'est-ce pas un évangéliste? Et un évangéliste n'est-ce pas un pasteur? Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, puis les docteurs, et puis les pasteurs et ainsi de suite. C'est-à-dire Dieu qui les a établis dans l'Église et c'est-à-dire Dieu qui leur a donné un office. 65. Mais, le matin où j'ai posé la première pierre, parce que, maintenant, si vous êtes spirituel vous comprendrez cela, tiré à cause du cri du peuple. Si vous pouvez ouvrir cela ou bien prendre le livre et lire cela, il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne m'a pas appelé pour être un évangéliste. Mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Car le temps viendra où les ennemis supporteront pas la saine doctrine, mais pour ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se détourneront de la vérité vers les fables. Voyez-vous? Il a cité cette écriture et m'a dit où la trouver. Il l'a dit à trois reprises. Et j'avais pris la Bible et je l'ai ouverte à l'endroit qu'il m'a indiqué, et ça se trouvait là. Par conséquent, si frère Branham a dit qu'il n'était pas un évangéliste, comment se fait-il que certains disent qu'il l'était? Le simple fait qu'il ait fait l'œuvre d'un évangéliste Néhémie fait pas de lui un évangéliste. Maintenant, il a pu être très fructueux à faire l'œuvre d'un évangéliste, mais il a dit qu'il n'était pas un évangéliste. J'ai conduit des réunions à RD Congo dans un stade de football, et j'ai prêché un style de sermon évangélique et j'ai eu beaucoup de succès, puisque plus de 130 personnes sont venues à l'hôtel deux nuits d'affilée, tombant sur les genoux et pleurant devant Dieu. La deuxième nuit autant ou plus de personnes sont venues pour recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'était l'œuvre d'un évangéliste, mais je n'ai suis pas un évangéliste. Mais ce don est là par le Saint-Esprit. Mais il m'a appelé depuis mon enfance à faire l'œuvre d'un apôtre. Et pourtant je me tiens ici en tant que votre pasteur. Vous voyez? Et j'apporte la parole comme un enseignant. Ces dons sont là et dans certains il y a plus d'un don. Mais c'est le même Saint-Esprit qui est l'enseignant. C'est le même Saint-Esprit qui est l'évangéliste et qui est l'apôtre. Le prophète et le pasteur. L'apôtre Paul était aussi pasteur à Éphèse, de même que l'apôtre Jean. Ainsi les dons et les appels sont sans repentir, et sont des dons de l'esprit et certains peuvent avoir plus d'un don. L'expectative d'hymne 28 février 54 p 24 est bien. Nous savons qu'il y a des gens qui n'y croient pas dans les dons divins, et pourtant, ce sont des prédicateurs. Comment ont-ils donc reçu l'inspiration de prêcher? S'il n'y a pas un don de prêcher, alors d'après cela, chaque personne est un prédicateur. Mais la Bible dit, Dieu a placé dans l'Église, c'est ce que Dieu l'a fait, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et ainsi de suite, tout dans l'Église. Dieu les a établis là-dedans. Et ils sont inspirés pour une certaine œuvre. Et ensuite, certaines personnes peuvent posséder plus qu'un seul don. Mais il y a au moins un don ou plus dans une personne. Et puis, tous ces dons semblent opérer ensemble pour l'édification du corps de Christ, pour la prêter à s'en aller. Ce n'est pas la seule catégorie d'hommes qui doit s'abandonner au Saint-Esprit car les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Décès au moment 23 juillet 62-225. Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, Sester, l'apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. 226 Eh bien, je n'y suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'y le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227 Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis. Je n'ai mais le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez. C'est de le déclarer lui. Qu'il est ici. Comment communier dîme 9 octobre 55-62 même au ministère? Le voici, c'est Esther de déclarer tout simplement que Dieu est ici. Ça importe peu. Que je prie pour vous ou pas dans cette réunion spéciale. Donc, il s'agit de votre foi. Il n'est pas question de me toucher moi. Il est question de le toucher. Lui. Voyez? Touchez-le. Cela se produira. Ainsi, frère Branham nous fait savoir qu'il n'est ni pasteur ni enseignant. Et que son ministère est différent. C'est de déclarer la présence de Dieu à cette génération. Son ministère était de nous présenter la présence, la parousia de Christ. C'était ça son ministère. Mais certains vous diront que frère Branham a réuni les cinq offices en un seul. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il était un prophète messager avec l'ainsi dit le Seigneur, et même s'il a fait l'œuvre d'un évangéliste, selon ses propres termes, il nous a dit qu'il n'était pas un évangéliste. Il nous a également dit qu'il n'était ni pasteur ni enseignant. Alors, qui allons-nous croire? Ce qui ferait de William Branham le tout en tout de Dieu? La chose suivante que vous verrez. Ils feront de lui le lit de la vallée, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga et le messie de l'âge. Et ce qu'ils font, c'est de confondre l'action du Saint-Esprit en 7 heures avec un homme qui n'était qu'un vase abandonné, essayant de son mieux de mourir à lui-même afin que Christ puisse se magnifier à travers l'abandon de son corps. Faites donc attention à Néhémie pas entrer dans l'adoration volontaire des anges, comme Pierre nous en a averti. Par la sept montagne d'Hymne 15 décembre 57-31 maintenant, alors que nous entrons dans la réunion, si vous voulez bien être respectueux pendant un instant. Comme prédicateur, je n'ai suis pas fameux. Je n'ai peut pas me classer parmi les prédicateurs. Je dis. Esther un prédicateur, en effet, je n'ai pas l'instruction que ces ministres ont et tout. Mon don à moi consiste à voir des visions. La Bible dit qu'il y a dans l'Église 5 offices qui sont ordonnés par Dieu et qui sont placés dans l'Église. Ceux qui remplissent ces offices. Premièrement, ce sont les apôtres, puis les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ils sont préordonnés par Dieu. Il a vu cela par prédestination, par prescience. Il a placé cela dans l'Église pour chaque âge. Maintenant, nous pouvons vous montrer où Dieu les a ordonnés et les a placés dans chaque âge. Et vous, Vous me montrez où il les a sortis dans ce dernier âge? Et si vous enseignez contrairement à ce que Paul vous a enseigné, vous serez maudit. C'est Esther, ainsi dit le Seigneur. Car Dieu Esther la parole. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison le 19 juillet 54, puis Dieu a établi, dans l'église des apôtres, des docteurs, et des prophètes. Esther, c'est vrai? Dieu les a établis dans l'église pour le perfectionnement. Alors, ce n'est pas l'évêque qui les a placés, ni l'ancien ni quelqu'un d'autre, mais c'est Esther Dieu, et ils sont. Ses offices ont été placés dans l'église. Et écoutez-le, 1er mars 58 et 83, eh bien, mes amis, il y a 5 offices dans l'église, les prophètes, ou les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les apôtres ou les missionnaires, l'un ou l'autre selon que vous voulez les appeler, les deux signifient la même chose. Dieu a placé cela dans l'église pour le perfectionnement de l'église. Un prophète comme Moïse 20 novembre 59 40 espace vide sur la bande-n.d.e. Néhémie sont pas appelés par l'église et ainsi de suite. Ils sont choisis par Dieu, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, il se peut que Néhémie les ait pas alignés comme il faut. Troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. 5 offices spirituels dans l'église pour la mettre en ordre. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis, dans l'assemblée locale, il y a 9 dons spirituels qui opèrent parmi les gens. Maintenant, concernant ses offices et ses positions, parmi les offices, vous, l'Église dans ce but. Puis Dieu descend sous la forme du Saint-Esprit au milieu de son assemblée, parle en langue, et un autre interprète dit à une certaine personne une chose qu'elle doit faire. Et la chose arrive comme telle. Peut-être que ça pourra arriver à un moment donné où il y a eu un besoin. Et puis, il y a les dons de sagesse, de connaissance, d'interprétation, toutes sortes de dons qui opèrent dans l'Église. Mais le premier moyen est tout. C'est-à-dire que cela doit d'abord venir par la parole. La parole. Jésus-Christ est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement, dîme 5 février 61 S12. Puis, à part cela, il a aussi 5 offices ministériels. Premièrement, il y a les apôtres ou les missionnaires. Le mot apôtre veut dire un envoyé. Un missionnaire, ça veut dire un envoyé. Deuxièmement, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et autres. Ce sont des dons donnés par Dieu, établis dans l'Église. Ils sont prédestinés par Dieu et établis pour l'Église. Vous, Néhémie, pouvez pas faire de vous-même un ministre. Vous devez être appelé de Dieu pour être ministre. Être persévérant, dîme 29 juillet 62 99, je prie que ces hommes de Dieu, tes serviteurs qui, tu as 5 offices dans l'église. Tu as dit que tu as ordonné dans l'église premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ô Dieu, tu les as placés dans l'église. Peut-être qu'ils n'aiment peuvent pas prophétiser et annoncer des choses. Peut-être qu'ils n'exercent pas le discernement. Mais ces hommes sont des docteurs et des pasteurs. Question et réponse numéro 2, dîme 23 août 64 S 54, il y a 5 offices désignés par Dieu. Car Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est-à-dire Dieu qui a fait cela. L'homme, lui, place des diacres, etc., et tout le reste. Mais voyez-vous, Dieu a placé dans l'église, pour le perfectionnement de l'église. Vous, Néhémie, pouvez désunir cela. Du beau Montgalan, Mar 7 juillet 59-7. Or, il y a 5 offices que Dieu place dans l'Église. Il y a 9 dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les membres du corps. Le premier, ce sont les apôtres, c'est-à-dire les missionnaires. Le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé, c'est-à-dire le même mot. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les offices que Dieu a placés dans l'Église. Ils sont tous en action, ou le devraient. Nous, Néhémie, pouvons pas en contourner un seul et dire qu'il y a des docteurs sans dire qu'il y a des évangélistes. Nous, Néhémie, pouvons pas dire qu'il y a des évangélistes sans dire qu'il y a des apôtres. Nous, Néhémie, pouvons pas dire qu'il y a des apôtres sans admettre qu'il y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Le Seigneur me donne des visions. Ces choses ont commencé lorsque j'étais un petit bébé. Je n'y crois pas qu'un homme puisse être appelé par l'homme et avoir du succès en tant que ministre. Je crois que les dons et les appels sont sans repentir, et que Dieu par sa préscience a préordonné ses ministres à l'Évangile ainsi que les dons dans l'Église. L'apôtre Paul nous a mis en garde dans Colossiens 2.18 qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, n'ait vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est renflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Maintenant, cette formulation est un peu déroutante, parce qu'il semble que l'adoration des anges soit votre récompense car ce passage n'a pas été très bien traduit. Mais la version amplifiée clarifie très bien ce que ce passage nous dit. Colossiens 2.18 que personne n'aime vous escroque en agissant comme un arbitre et en vous déclarant indigne et vous disqualifiant pour le prix. Insistant sur l'abaissement de soi et l'adoration de anges. En prenant position sur des visions qu'il prétend avoir vues, vainement enflé d'orgueil par ses notions sensuelles et enflé d'orgueil par ses pensées non spirituelles et sa vanité charnelle, la traduction The Voice, la voix, note du trad, l'exprime ainsi, 18 Néhémie soyez pas dépouillés du prix par d'autres qui vendent le culte des êtres célestes et de la fausse humilité. Des gens comme ça courent ça et là disant à quiconque écoutera ce qu'il prétend avoir vu, mais en réalité il n'est mis témoigne que d'un esprit enflé, saturé de vanité, pas dans l'esprit. La version NIF de Colossiens 2.18 n'est mis laissez personne qui prend plaisir à la fausse humilité et à l'adoration des anges vous disqualifier. Une telle personne entre également dans les détails de ce qu'elle a vu. Ils sont enflés d'idées par leur esprit non spirituel. Je suis dans ce message depuis 44 ans et j'ai été enseigné par le meilleur docteur dans cette génération a été le témoin qui s'est assis au pied du prophète messager de Dieu et qui a travaillé avec lui et dont le prophète a dit il n'y a personne qui me comprend ou comprend mon message comme Livelle. Et il a été mon mentor pendant 33 ans. Je vais vous dire que j'ai été témoin de cette adoration des anges messagers et de cette fausse humilité contre lesquelles l'apôtre Paul nous a mis en garde quant à la venue. Et cela est arrivé par beaucoup de personnes qui prétendent être proches du messager et qui nous disent, avec une si grande mais fausse humilité, que vous feriez mieux d'entendre d'eux ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Et c'est ce contre quoi Paul nous a mis en garde dans Colossiens, 2.18. Les adorateurs d'anges, les adorateurs de messagers qui essaient de vous faire entrer ou sortir sur base de leur doctrine pathétique. Soyez très prudents, aussi, mes frères et sœurs, quant à celui que vous écoutez, parce que vous pouvez avoir un esprit sur vous et vous Néhémie saurez même pas quand il est revenu sur vous, mais il vous éloignera de la vérité de la parole de Dieu. Or, frère Branham dit dans la stature d'un homme par Fedim 14 octobre 62 M224, prenons Éphésiens 4, Et voyons ici ce qu'il Esther dit dans l'Épître aux Éphésiens, à propos de cette chose également, sur la manière de procéder. Éphésiens, chapitre 4. Depuis le verset 12. Éphésiens 4. Et nous commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Souvenez-vous d'hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Voyez, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des Dieu. Esther s'écrit comme ça, le perfectionnement des quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont commencé ici, en bas. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère de Jésus-Christ. De l'édification du corps de Christ, de l'édification, la construction, l'édification, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, jusqu'à l'assurance, oh, là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La résurrection de Jésus, je 5 avril 56-35, et Dieu Esther monté en haut. Il a emmené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Et il a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement, les prophètes, après cela, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Est-ce vrai? Dieu les a établis dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église, afin que les gens sachent qu'il n'est pas mort, qu'il vit toujours et au siècle des siècles. Et il Esther dans son Église aujourd'hui, accomplissant son œuvre de souverain sacrificateur, œuvrant par son peuple alors qu'il s'abandonne à lui dans le même but. Et je crois que le même Jésus-Christ, qui était ressuscité le premier matin radieux de Pâques Esther encore vivant aujourd'hui au milieu de son peuple. Prions. Apocalypse. Livre de symboles d'hymne 17 juin 56-58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il Esther l'ange de Dieu pour l'Église, le messager pour l'Église. Par conséquent, un pasteur Néhémie devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur Esther un berger, et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis, pour le nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Amen. La foi en action, l'un 3 octobre 55-83, il a envoyé sa parole. Vous croyez que c'est Esther la vérité? N'est-ce pas? Dans sa parole, il a dit qu'il placerait dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Vous croyez cela? N'est-ce pas? L'apôtre a un rôle à jouer, le prophète a un rôle à jouer. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Téléo jusqu'à l'assurance. Oh, là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, le mot téléo a été utilisé en référence à un fils qui Esther prêt à être adopté à la mesure de la stature qui Esther le caractère parfait de Christ. Donc, ce quintuple don que Dieu a placé par prédestination dans l'Église vise à aider l'Église à grandir et mûrir dans le caractère parfait de Christ. 14 Afin que nous n'ayons soyons plus des enfants, nepio, des petits-enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui Esther le chef, Christ. Ainsi, Le corps doit grandir pour correspondre à la tête, qui est Christ. Un procédime 5 avril 64 11 bien. Aujourd'hui je vais lire les Écritures dans Marc chapitre 16. Juste quelques instants, pour en tirer un contexte, je vais commencer au verset 14. Et il leur fit des reproches, au 11. Il apparut au 11. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Eh bien, souvenez-vous, par tout le monde, cet évangile à toute la création. Certains disent que cela a pris fin avec les apôtres. Il a dit, ici que sa dernière commission à l'Église était destinée au monde entier, à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru, ou, par tout le monde, à toute la création. Remarquez, voilà où il a donné cette commission à l'Église. Montrez-moi là où il l'a retirée. Par tout le monde, celui qui croira, sera sauvé. Celui qui n'est mis, croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il n'est mis leur fera point de mal à qui. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Eh bien, je crois que cette écriture est la vérité. Un super signe dit 8 juillet 6246 qu'a dit Jésus. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. À combien? À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'y croira pas sera condamné. Et une conjonction, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dans le monde entier, à toute la création, à chaque créature. 147 Je peux vous montrer là où Dieu a placé des dons et la puissance dans l'Église. Je voudrais que quelqu'un m'indique une seule écriture et me montre là où il a ôté cela, là où il a retiré cela de l'Église. C'est un super signe pour le croyant, montrant que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous sentons le Saint-Esprit, et nous le voyons œuvrer dans nos vies et nous changer de ce que nous étions en ce que nous sommes maintenant. Amen. Il est ressuscité des morts. Grâce soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je 26 avril 5649. Maintenant, son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est ici, agissant au travers de ce vase sanctifié. Et Dieu a placé dans l'Église, quoi? Premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, puis les évangélistes, puis les pasteurs. Est-ce vrai? Pour le perfectionnement de l'Église. C'est ce que Dieu a fait cela. Ce n'est pas le prédicateur qui prêche. C'est Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n'est pas le prophète qui a la vision, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Question et réponse sur l'Isodim 24 mars 63 M22. Est-ce ce que l'épouse de Christ aura? Est-ce ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? 233 bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez? L'épouse de Christ. Certainement. C'est le message de l'heure, vous voyez? L'épouse de Christ. Bien sûr, Elle est constituée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. N'est-ce pas vrai? C'est Esther l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère, un grand ministère. Si Esther le ministère de l'heure, il sera tellement humble. Remarquez qu'il a dit que le quintuple ministère consiste à amener le corps de Christ à la maturité en les amenant à une unité concernant la révélation de Jésus-Christ, où, non seulement, nous comprenons pleinement la relation entre le Père et le Fils, mais aussi entre le Père et les Fils. Et il ajoute que cela est rendu possible par la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, non pas une foi, mais la foi est Esther la foi d'un seul Seigneur. Puis il ajoute, et de la connaissance du Fils de Dieu. Et donc cette révélation nous mènera à l'état d'homme fait, pleinement mûr et prêt à être adopté. Et puis Paul ajoute, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Or, ce mot stature parle du fait que nous parvenions à la plénitude du caractère de Christ. Remarquez frère Branham, dit dans son sermon le sceau de Pâques samedi 10 avril 65-47, Or, si ce même esprit qui était sur lui pour qu'il soit le rédempteur en cet âge-là, celui que nous avons accepté. Maintenant, la promesse de ce qui doit arriver dans ces derniers jours. Si vous devenez une partie de cette parole, vous êtes racheté avec lui, parce que le même esprit qui habitait en Christ habite en vous. Il vivifie votre vie à cet âge-ci. Et au temps de la fin, il vivifiera aussi vos corps mortels. Il les ressuscitera. Il les fera ressusciter. Ça chasse la crainte de le voir comme ça, et s'estère la vérité. 48 dans Romains. Ici, Paul nous l'a prouvé. Vous voyez, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire le même esprit qui l'a ressuscité, lui, qui rend aux vrais croyants la vie éternelle. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le croyant. Il vivifie le vrai croyant à la vie éternelle. Encore, dans son sermon c'est-à-dire le lever du soleil dîme 18 avril 65 346 et maintenant, voyez-vous, maintenant vous êtes déjà ressuscité. Lorsque Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité aussi. Le Fils est maintenant même sur vous. Et maintenant vous grandissez dans une vie épanouie comme lui, pour être ressuscité complètement ce dernier jour-là. Vous l'avez potentiellement, maintenant. Comment le savez-vous? Votre âme a changé, n'est-ce pas? Votre corps est soumis à cela, n'est-ce pas? Soumis à quoi? À une église? À la parole qui est la vie. Alors vous êtes maintenant ressuscité d'entre les morts. 190 Vous avez potentiellement le gage? L'attente. 191 Bien. Quand vous recevez la dynamique, vous êtes vivifié, en passant ainsi de votre nature mortelle à l'immortalité. Cela amène le corps entier à se soumettre à la parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, vivre différemment. Cela vous rendra simplement différent. 196 Remarquez, c'est juste comme une petite semence enfouie en terre. 197 Maintenant, vous êtes potentiellement ressuscité. Vous êtes ressuscité lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes ressuscité à ce moment-là. Votre corps est potentiellement ressuscité. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, août 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.